Maintenant, je vais vous présenter notre conférencier de ce soir. Jean-Arcadie Meyer est né le 1er janvier 1941. Il est directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Animat Lab, laboratoire d'informatique de Paris 6, depuis 1997. Son parcours, ingénieur à l'École nationale supérieure de chimie de Paris, DEA de psychologie animale, doctorat d'État en sciences naturelles. En 1994-1997, fondateur et directeur de l'Animat Lab au sein du département de biologie de l'ENS. 1998-2000, directeur de la recherche au sein de la Société mathématique appliquée. 1998, directeur de l'Animat Lab au sein de l'IP6. Ses spécialités. Il est spécialiste de robotique et d'intelligence artificielle. Ses recherches portent sur la conception et la construction d'animates, c'est-à-dire d'animaux simulés sur ordinateur ou de robots réels, dont les lois de fonctionnement sont inspirées de celles des animaux. Pour sa bibliographie, il a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales et participé à la rédaction de nombreux ouvrages spécialisés. Il a écrit des articles pour des revues telles que La Recherche et pour la Science. Les animaux artificiels sont-ils pour demain, La Recherche 1998, La robotique évolutionniste pour la science en 2001, L'ambition d'être un rat à La Recherche. Il a préfacé avec Guillot l'ouvrage de Mansell et d'Aloisio, Robo Sapiens, une espèce en voie d'apparition, édition Autrement en 2001. Il est fondateur et éditeur en chef du journal Adaptive Behavior et son dernier article Vers une robotique animale est paru dans Pour la science du mois de novembre 2002. Maintenant, je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec le public. Merci.
Merci beaucoup. Eh bien, comme le titre de cet exposé le laisse penser, cet exposé se situe à l'interface entre l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'informatique, et la robotique. Mais comme on va le comprendre très vite, il est également à l'interface de la biologie, notamment des neurosciences et de l'éthologie, et des sciences cognitives. Alors, l'expression « intelligence artificielle » a été utilisée pour la première fois en 1956, lorsque John McCarthy a organisé la première conférence sur le sujet à Dartmouth, aux États-Unis. Et au cours de cette conférence, les objectifs de cette nouvelle discipline ont été définis, notamment un objectif fondamental qui était de comprendre et de reproduire l'intelligence d'un homme, notamment ses capacités de haut niveau, telles que être capable de jouer aux échecs et si possible de gagner, être capable de raisonner logiquement, être capable de comprendre et de traduire les langues naturelles. Cet objectif, à ce jour, et au risque d'en décevoir plusieurs dans l'assistance, est parfaitement utopique, comme je vais vous l'expliquer. Mais dans cette conférence de Dartmouth, des objectifs appliqués ont également été définis. Et en gros, on a dit, ça serait bien de produire des systèmes qui réalisent des actions qui ont l'air intelligentes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire des actions telles que, si par hasard c'était un humain qui les accomplissait, eh bien on penserait qu'il met en œuvre les ressources de son intelligence pour y parvenir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les moyens mis en œuvre par la machine ou par l'humain sont nécessairement les mêmes. Et cet objectif-là est parfaitement réaliste. Il existe d'ores et déjà des systèmes qui font des choses qui ont l'air intelligentes, ça s'appelle des systèmes experts, où il y a des logiciels de fouille de données qui font des choses très très utiles et qui ont l'air aussi très intelligentes, où on peut mettre au point des objets qui sont capables d'agir, de prendre des décisions, comme par exemple le réfrigérateur qui, lorsqu'il est vide, va aller commander 3 pots de yaourt et 2 salades. Alors, des réalisations spectaculaires pourraient laisser penser que l'objectif primal de l'intelligence artificielle, que l'objectif fondamental, est près d'être atteint. Par exemple, la société Sony a fabriqué un robot humanoïde qui s'appelle SDR-4X, qui est une merveille de technologie. Ce robot est capable de danser sur place, il est capable de monter des escaliers, il est capable de se maintenir en équilibre sur un plan incliné. Bref, des capacités sensorimotrices et surtout motrices fabuleuses, mais d'intelligence, point. C'est une caisse à savon et rien de plus. Ici, vous avez, je vais vous montrer une vidéo du match qui a opposé Kasparov à Deep Blue et match que le Russe a perdu. Donc, un programme a été capable de battre le champion du monde aux échecs.
As long as I could keep on the pressure, you know, forget game today game. I mean, Deep Blue hasn't won a single game out of five because, again, game two I resigned when I could force a draw.
Je vous mets le son en anglais simplement pour que vous vous rendiez compte que Kasparov est très très colère. Il est très fâché, il a perdu et toutes ses émotions remontent à la surface. Bon, il a perdu, certes, mais si on regarde comment la machine s'y est prise, eh bien, elle n'a pas mis en œuvre des trésors d'intelligence. C'est parce qu'elle était capable de développer des milliards de calculs à la seconde et de mémoriser des milliers de parties qu'en fait, elle a battu Kasparov. Et du point de vue de l'intelligence artificielle, ce qui vient de se passer avec un autre programme d'ordinateur et un autre champion du monde des échecs qui s'appelle Vladimir Kramnik est beaucoup plus spectaculaire parce que là, la machine déborde d'intelligence. Il est vrai que cette fois-ci, le match a donné... la partie s'est terminée par un match nul. Ni l'humain, ni l'ordinateur n'ont gagné. Donc l'objectif fondamental de comprendre et reproduire l'intelligence de l'homme reste très lointain, de mon point de vue. D'autres collègues peuvent ne pas être d'accord avec ça. Et je pense que c'est sans doute parce que nous n'avons encore ni les bons concepts, ni les bonnes machines. Et du coup, je prétends que plutôt que de comprendre et de reproduire de l'intelligence de l'homme, essayons plutôt de comprendre comment cette intelligence s'est mise en place au cours de l'évolution. Intéressons-nous donc d'abord à des formes d'intelligence plus simples, c'est-à-dire à ce que j'ai appelé des animates. Alors, les animates sont des animaux simulés sur ordinateur ou des robots réels, dont soit la morphologie, soit l'organisation sensorimotrice, soit les deux, sont inspirés des animaux naturels. Et qui sont capables de s'adapter et de survivre dans des environnements plus ou moins changeants, plus ou moins imprévisibles, plus ou moins menaçants. Du coup, on comprend que les objectifs initiaux de l'intelligence artificielle classique sont modifiés et transformés par rapport à ceux de l'approche animate. En effet, les objectifs de l'intelligence artificielle classique, c'était, comme je l'ai dit, de reproduire des processus cognitifs complexes mais isolés et que l'homme ne partage pas avec les animaux, c'est-à-dire qui lui sont caractéristiques. Alors, raisonner, jouer aux échecs, parler, calculer, tout ça, l'homme sait faire, mais pas l'animal. Ça, c'était l'objectif de l'intelligence artificielle classique. Et l'objectif de ce que j'ai appelé l'approche animate, c'est au contraire de reproduire et de combiner, d'intégrer des capacités adaptatives basiques, les plus simples, que l'homme partage avec les animaux. Donc, comme eux, il sait se déplacer, comme eux, il sait éviter des obstacles, comme eux, il sait s'orienter, comme eux, il sait choisir quoi faire à tout moment, parce que ces capacités adaptatives basiques sont peut-être les primitives de l'intelligence humaine. Alors, l'idée de fabriquer des machines copiant la nature n'est pas nouvelle. Elle a inspiré en particulier de très nombreux créateurs d'automates dans de nombreux pays et à de nombreuses époques. Alors, on trouve dans la littérature spécialisée des grands noms comme King Shutse en Chine, le prince Kaya au Japon, le prince Boja en Inde, Al-Jazari dans l'Empire ottoman, mais je n'ai pas le temps de détailler ce que ces grands savants ont fait. Par contre, plus près de nous, en tout cas géographiquement, il y a dans la littérature des choses assez extraordinaires. Par exemple, on attribue à Architas de Tarente la fabrication d'un pigeon en bois vers les années 380 avant Jésus-Christ. Et on trouve dans les Nuits attiques de Olugel la description suivante que je trouve très savoureuse et que je vous lis. « J'ai assisté aujourd'hui à une démonstration fantastique près du Sénat. Il s'agissait d'un pigeon volant. Ce n'était pas un pigeon volant ordinaire, mais une machine propulsée par de la vapeur sortant de l'arrière. » Elle était attachée à une tige et après avoir été chauffée, elle se mit à voler. Les sénateurs ont été sidérés par ce jouet astucieux, mais lorsqu'ils ont voulu l'acheter, le propriétaire, nommé Architas, refusa de le vendre. Peut-être que ce jouet aura un jour des applications pratiques. Donc j'insiste sur cette citation, non pas tellement pour ça, parce qu'elle a l'air de prétendre que ce pigeon a réellement existé. Était-ce le cas, n'était-ce pas le cas, je n'en sais trop rien. Mais je trouve merveilleuse la phrase finale, peut-être que ce jouet aura un jour des applications pratiques. À tout seigneur, tout honneur, vers 1495, après Jésus-Christ cette fois, on attribue à Léonard de Vinci la conception et peut-être la fabrication d'un robot humanoïde dont il a laissé les plans et qui a une dégaine, une présentation qui est celle d'un qui est de style germano-italien de l'époque. Et ce robot, cet automate, pouvait s'asseoir, se lever, bouger ses bras et sa tête. Il pouvait aussi ouvrir et fermer sa mâchoire. Voici une animation, une reconstitution du fonctionnement de cet automate. Et on voit qu'il peut mouvoir ses bras, qu'il peut ouvrir sa mâchoire. Et les mécanismes qui le font fonctionner sont copiés des plans que Léonard de Vinci a laissés. Alors, il se raconte que les plans de ce robot ont été utilisés par la NASA pour concevoir un robot humanoïde capable d'habiter la station internationale et d'explorer la planète Mars. Il se raconte, personnellement, je n'en crois pas un mot, parce que le robot de Honda dont je vous ai parlé tout à l'heure est autrement plus spectaculaire et plus sophistiqué que celui-là, et si la NASA doit copier quelque chose, eh bien qu'elle copie au moins quelque chose qui a fait ses preuves. Mais cela dit, je suis personnellement éperdu d'admiration devant cet automate de Léonard de Vinci. Et puis, la merveille des merveilles, c'est le canard de Jacques de Vaucanson. Ça remonte au milieu du XVIIIe siècle. C'est un canard qui était fait de cuivre doré, qui pouvait boire, se nourrir, caqueter, s'ébrouer dans l'eau, digérer sa nourriture et déféquer. Il a été perdu dans des circonstances mal comprises et partiellement reconstitué au musée des automates ou au musée Jacques de Vaucanson, je ne sais pas comment il s'appelle, à Grenoble. Et donc là, on voit une animation vidéo du fonctionnement de ce canard. Et on ne peut qu'être émerveillé devant la souplesse de ses mouvements, devant la variété de ses mouvements. Dire que c'est un automate et qu'il a été construit au milieu du XVIIIe siècle, c'est absolument incroyable. On voit ici son cœur qui bat. Le canard est capable d'éliminer les sous-produits de sa digestion. Il battait des ailes, sans doute à l'origine plus qu'il ne le fait là. Etc. Alors, si l'idée de fabriquer des machines copiant la nature n'est pas nouvelle, les véritables robots ne sont apparus que vers le début du XXe siècle. Alors, un robot électrique qui avait l'allure d'un chien a été produit dans une exposition universelle en 1915. Et le mot robot vient lui-même d'un mot tchèque, robota, qui veut dire travail forcé. Et il a été employé pour la première fois par l'écrivain Karel Čapek, qui a écrit une pièce qui s'appelle Rure, et pour la présenter au public, eh bien, des images d'un robot étaient disponibles. En 1949, l'ingénieur américano-anglais Gray Walter a produit des robots qui avaient la forme et le comportement de base de ce qu'il appelait des tortues et qui étaient capables de rejoindre une lumière par phototropisme, qui étaient capables d'éviter des obstacles et qui étaient capables de combiner ces deux types de comportements. Alors pendant longtemps, alors que la BBC avait filmé les robots de Gray Walter, les originaux ont été perdus et il y a un an ou deux qu'un de nos collègues a retrouvé l'un de ses originaux dans une cave à Bristol en Angleterre et a pu reconstituer l'un de ses robots. Alors, il est temps maintenant de s'expliquer sur la notion d'automate, la notion de robot, la notion d'animate. Un système artificiel qui agit sur un environnement parce qu'il possède ce qu'il faut, ce qu'on appelle des actionneurs, eh bien, ça, c'est un automate. Si vous mettez en route dans l'automate un mécanisme électrique, un mécanisme pneumatique, un mécanisme hydraulique, eh bien, là, il va exercer la même action née variéture dans l'environnement. Il va faire toujours la même chose. Si maintenant, ce système est capable de prélever des informations sur l'environnement via ce que l'on appelle des senseurs, alors peut se mettre en place une boucle sensorimotrice qui fait qu'à tout moment, les actions exercées par ce système dans l'environnement dépendent de ses perceptions, de ses sensations. Ça s'appelle un robot. Et si maintenant, entre les senseurs et les actionneurs, on met un dispositif approprié qu'on appelle une architecture de contrôle et qui permet de maintenir des variables essentielles à la survie du robot dans ce que l'on appelle une zone de viabilité, alors le robot va survivre. Et cette architecture de contrôle, si elle peut être modifiée par des processus inspirés de la biologie comme l'apprentissage, le développement et l'évolution, alors on a affaire à un système artificiel adaptatif. Et pour finir, si ce système artificiel adaptatif qui peut survivre dans son environnement s'inspire du fonctionnement des animaux réels, alors c'est un animate. De nombreux chercheurs ont construit des robots ou des animates qui s'inspirent des animaux. Ils s'inspirent en particulier de la morphologie des animaux, et donc vous pouvez trouver comme ça dans les laboratoires ou dans le commerce des robots qui ont des formes de chiens, des formes de chats, des formes de serpents, de langoustes, de sélacantes, etc. Vous pouvez également trouver toute une variété de robots qui ont des formes humanoïdes, comme on en a déjà vu précédemment. Mais les roboticiens peuvent également aller chercher dans la nature des inspirations pour fabriquer des senseurs sophistiqués. C'est par exemple ce que fait Nicolas Franceschini, qui est lui aussi directeur de recherche au CNRS, mais lui à Marseille, et qui a étudié pendant des années et des années le système, le merveilleux, l'extraordinaire système visuel de la mouche. Et il a en particulier étudié comment, depuis les ocelles de l'œil de la mouche, l'information est transmise par des circuits neuronaux et exploitée pour permettre à la mouche d'éviter des obstacles en vol. C'est un travail absolument merveilleux. Et lorsque il a été fait, et lorsque Franceschini a compris comment ça marchait, eh bien, il a reproduit ça sur un système artificiel. En gros, la mouche utilise ce que l'on appelle le flux optique pour éviter les obstacles. Le flux optique, c'est la vitesse de défilement des images sur votre rétine. Imaginez que vous soyez assis dans un train, ce qui est près des rails défile à toute allure sur votre rétine, et vous savez que c'est très près. Par contre, tel pylône qui est à 1 km défile très lentement et donc vous en déduisez que c'est très loin. Eh bien, c'est ce principe-là qui est utilisé par l'œil de la mouche et par les circuits neuronaux qu'il y a derrière, que Franceschini a copié et qu'il a mis en œuvre dans des robots qui évitent des obstacles sur le sol ou qui évitent des obstacles dans l'air. D'autres chercheurs s'inspirent de la nature pour copier des merveilleux actionneurs qu'elle a pu inventer. Par exemple, pour faire des robots qui vont être tout petits et voler à ailes battantes, eh bien, il y a toute une industrie qui se met en place pour fabriquer des ailes qui sont déformables comme celles des oiseaux ou des insectes. Et à n'en pas douter, cette industrie va être florissante dans les années à venir, une industrie de fabrication de matériaux composites. Et puis, on peut chercher à s'inspirer de la biologie en allant copier non pas les censeurs, non pas les actionneurs, mais ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire l'architecture de contrôle, c'est-à-dire encore le système nerveux d'un animal, ou des parties de ce système nerveux. Alors, dans notre laboratoire, des chercheurs travaillent sur ce que les biologistes ont compris du système qui permet à un rat de choisir quoi faire au bon moment. Un rat survit dans son environnement parce qu'il est capable d'aller manger quand il a faim et d'aller boire quand il a soif, et de ne pas faire le contraire. Et les biologistes ont compris qu'une grande partie des mécanismes qui lui permettent de faire ça sont situés dans ce que l'on appelle les ganglions de la base dans son cerveau. Et du coup, nous avons recopié ce que l'on comprenait de ces mécanismes et nous l'avons importé dans un robot qu'on a fabriqué pour la circonstance. C'est un robot Lego qui, vous ne le voyez pas très bien sur cette image, mais il a deux yeux qui pointent vers le sol et qui permettent de détecter si une zone est plus ou moins lumineuse ou plus ou moins obscure sur le sol. Et il est équipé de détecteurs qui permettent de sentir des contacts et donc d'éviter les obstacles. Et ce robot est capable de vivre dans son environnement et d'y survivre parce que, vous voyez, il se déplace et il peut avoir faim ou avoir soif. Et s'il arrive sur une zone blanche, eh bien, il peut s'y nourrir. Et après s'être nourri, il continue à vaquer à ses occupations. Alors moi, je ne vois pas très bien sur mon écran, j'espère que c'est plus visible ce que vous voyez là-haut. Mais il y a aussi des zones sombres dans l'enceinte. Et le robot qui vient de se nourrir n'a plus faim, donc il néglige cette zone. Il néglige cette zone où il pourrait se nourrir. Et par contre, ici, il va rencontrer une zone sombre où il peut boire. Et là, parce qu'il a soif, il se met à boire. Donc vous voyez que quand il a faim, il se nourrit. Quand il n'a pas faim, il néglige la nourriture. Quand il a soif, il va boire, etc. Et ce que l'on veut faire dans notre laboratoire maintenant, c'est d'aller plus loin et de permettre à ce robot de survivre, non pas parce que simplement il pourra se nourrir ou boire, mais il sera capable d'échapper à des prédateurs. Et pour ce faire, il pourra relever ses yeux qui, là, regardent vers le sol pour détecter les zones sombres ou les zones lumineuses. Il pourra relever les yeux, les mettre à l'horizontale et aller chercher s'il voit ou non un prédateur dans son environnement. Mais vous comprenez tout de suite les limitations de cette application. C'est que le robot trouve par chance les endroits où il va pouvoir se nourrir ou les endroits où il va pouvoir boire. Un rat fait des choses beaucoup plus sophistiquées. Il est capable d'explorer son environnement et d'en construire une carte et de savoir que de la nourriture a été trouvée hier à tel endroit et que par conséquent, quand aujourd'hui il a faim, il va essayer de rejoindre l'endroit en question. Et donc, pour réussir à faire ça, il va falloir que l'on mette de l'apprentissage dans nos robots. Alors ça, c'est un mot-clé important dans notre domaine. Je vais essayer de vous faire sentir comment on met de l'apprentissage dans un robot. Et en gros, une des manières de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Alors, un réseau de neurones, c'est l'équivalent du système nerveux d'un animal, comprend en particulier des neurones sensoriels, c'est-à-dire des neurones qui sont plus ou moins actifs, selon que l'animal détecte ou non certaines choses dans son environnement. Par exemple, on peut concevoir que si ici, ceci est par exemple un sonar qui détecte la présence dans cette direction-là d'un objet, si cet objet est proche, alors ce neurone qui est connecté à ce senseur va être très actif. Si par contre, ici, rien n'est détecté dans cette direction, eh bien, ce neurone sensoriel-là va être très peu actif. Des calculs vont être effectués au sein du réseau de neurones et propagés au niveau de ce qu'on appelle des neurones moteurs ou des neurones de sortie. En gros, si ce neurone est très actif, alors ça va faire tourner très vite cette roue. Si ce neurone-là est peu actif, alors ça va faire tourner très peu cette roue. Et donc, on comprend que l'information qui est fournie en entrée est propagée par les neurones intermédiaires vers les neurones de sortie. et donc que la boucle sensorimotrice dont je parlais précédemment peut être mise en place par un système tel que celui-ci. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'un neurone artificiel, une petite unité de calcul, reçoit une série de signaux en entrée. Par exemple, celui-là reçoit un signal bleu, un signal rouge et un signal vert en entrée. Ces signaux sont sommés et transformés pour décider du niveau d'activation qui va être propagé le long de l'axone du neurone en question. Et du coup, vous pouvez comprendre que si les signaux qui arrivent en entrée sur un de ces petits modules sont pondérés par une grandeur que l'on appelle l'efficacité synaptique de la connexion, eh bien, si cette efficacité synaptique est élevée, alors ce signal va prendre beaucoup d'importance dans le calcul de la sortie. Si par contre l'efficacité synaptique de cette connexion est faible, alors ce signal va prendre peu d'importance dans le calcul de la sortie du même neurone. Et voilà, maintenant vous avez tout compris. Pour faire apprendre à un robot comment faire les bonnes actions en fonction de ce qu'il reçoit en entrée, on va utiliser des algorithmes qui vont modifier les activités synaptiques de ces connexions. Je ne vous dis pas comment c'est fait, c'est compliqué, on n'a pas le temps. Mais l'apprentissage, ça revient à changer des poids de connexion dans un réseau de neurones. On peut faire ça de beaucoup d'autres manières, mais c'est une des façons les plus fréquemment utilisées. C'est celle qui a été utilisée en particulier chez nous pour faire apprendre à un robot ce que l'on appelle une carte cognitive de son environnement. Et c'est ce qui manquait dans l'expérience précédente où le robot ne savait pas où il était et trouvait sa nourriture ou sa boisson au hasard. Il se trouve que les biologistes ont compris que dans le cerveau du rat, dans une structure particulière qui est ici marquée en bleu et qui s'appelle l'hippocampe pour des raisons anatomiques diverses, se trouvent ce que l'on appelle des cellules de lieu, c'est-à-dire des cellules qui déchargent préférentiellement lorsque le rat est à un certain endroit de son environnement. En gros, dans l'hippocampe, il y a des milliards de cellules et on peut concevoir que quand le rat est ici dans son environnement, eh bien, la cellule I, puis la cellule 17, la cellule 23, la cellule 3 025 000 s'activent très fort. Par contre, la cellule 24 et la cellule 32 sont complètement silencieuses. En revanche, quand le rat est à un autre endroit de son environnement, par exemple ici, les cellules précédentes se taisent, alors que la cellule 18, la cellule 53, etc. S'activent. Par conséquent, à tout moment dans l'hippocampe du rat, certaines cellules sont activées ou sont silencieuses, et c'est ça qui renseigne le rat sur l'endroit où il se trouve dans son environnement. Et du coup, quand on a compris un peu cette logique, eh bien, on peut permettre à un robot de l'exploiter pour se déplacer dans son environnement, détecter des amers qu'il peut voir avec son système visuel, recruter des cellules de lieu qui font que, par exemple, cette cellule-là s'activera chaque fois que le robot sera ici et verra cette amère-là et cette amère-là. Et donc, on voit qu'à mesure que le robot explore son environnement, il recrute des cellules de lieu. Ici, on recommence depuis zéro. Donc, au début, le rat ne sait rien. Et puis, petit à petit, il recrute des cellules de lieu qu'il associe à ce qu'il voit aux différents endroits et qui vont lui permettre de savoir où il est. Alors ici, nous avons appliqué ce principe sur un robot réel dans notre laboratoire. Et vous pouvez voir ici ce robot se déplacer dans un environnement de couloir avec des portes, des ascenseurs, tout ce que vous voudrez. Il a construit sa carte, c'est-à-dire qu'il a recruté les cellules de lieu qui lui permettent de savoir où il est. Et à tout moment, selon le paquet de neurones qui sont plus ou moins actifs, eh bien, le robot sait où il se trouve. Donc ici, vous avez une animation de ce phénomène. Et que le robot se déplace. Selon l'ampleur des cellules activées, il est plus ou moins sûr de l'endroit où il se trouve. Mais vous avez un petit point vert qui est en quelque sorte le centre de gravité des cellules activées et qui est l'endroit où le robot croit le plus se trouver. Et si on regarde bien, on voit que ce neurone vert suit d'assez près les déplacements réels du robot dans son environnement. Donc, vous voyez que au début, le robot ne sait rien. Il est lâché dans son environnement. Il l'explore, il construit une carte et il finit par savoir à tout moment où il se trouve. Et ça, sans senseurs sophistiqués comme des GPS ou des sonars, c'est uniquement par ces informations visuelles, c'est uniquement par ces informations vestibulaires, c'est uniquement par ces informations proprioceptives qu'il peut ajuster les informations qu'il a sur ce qu'il voit et sur le sens qu'il a de ses déplacements. Ici, vous avez un autre robot, un des robots célèbres du MIT, qui apprend lui aussi, mais il apprend par imitation. En gros, ce robot est capable de détecter et de reconnaître des visages. En gros, il reconnaît les yeux. Et il peut, par imitation, une fois qu'il a reconnu un visage dans son environnement, eh bien, il peut imiter les mouvements du visage en question. C'est ce que vous allez voir sur la vidéo qui est ici, où on voit ce robot. Vous voyez, si l'humain cache son visage, eh bien, le robot n'est plus capable d'imiter. Par contre, si les yeux sont visibles, le visage est reconnu et le robot peut imiter les mouvements de l'humain. Ici, on a un autre robot spectaculaire du MIT qui apprend lui aussi par imitation et qui apprend à exprimer des émotions. Mais je vous dis tout de suite que c'est des émotions plaquées, complètement artificielles. Le robot lui-même ne ressent rien, mais il est capable de voir qu'un humain et de comprendre entre guillemets, qu'un humain exprime plutôt de la joie ou plutôt de la peur, un certain nombre d'émotions de base. Et les moteurs qui animent le visage de ce robot vont être capables de reproduire ces émotions de base pour avoir un échange intéressant avec l'humain. Ici, vous avez une animation avec un petit enfant. Vous voyez que selon que l'enfant a l'air content, qu'il sourit, l'attitude du robot change et l'expression de son visage change. Alors, on a dans notre laboratoire un projet auquel on tient beaucoup et qui s'appelle Psycarpax. Va constituer la synthèse un peu de tout ce que je viens de vous expliquer. En gros, ce projet vise à fabriquer un rat artificiel qui ressemblera partiellement à un rat réel. Bon, d'accord, il se déplacera parce qu'il aura des roues, ça c'est pas très biomimétique, mais il aura des vibrisses pour le toucher, il aura deux yeux pour y voir, il aura des oreilles pour entendre, il aura des pattes avant pour attraper des objets, il pourra se redresser pour regarder au loin ou s'aplatir comme un rat naturel. Et ce que l'on veut, c'est que ce rat soit capable de survivre dans notre laboratoire, c'est-à-dire qu'on veut qu'il l'explore pour construire la carte cognitive qu'on a vue en construction tout à l'heure sur un robot d'un type différent. Donc on va recruter des cellules de lieu et à tout moment, selon les cellules qui sont les plus actives, le rat robot saura qu'il est situé par exemple ici dans son environnement. Et puis ce rat aura détecté que hier il a trouvé de la nourriture ici, que hier il a trouvé de la boisson ici en bleu. Là, il a trouvé de la nourriture et là, il a trouvé de la nourriture. Et il sera capable de performances assez étonnantes du genre j'ai faim, mais pas trop. Donc j'ai le temps d'aller chercher la nourriture comme ceci, là où elle est loin. Par contre, si j'ai vraiment très très faim, et si je suis en détresse énergétique, alors je vais aller chercher la nourriture plus près, au risque de passer par ici, où il y a plein de vilains humains qui ne font rien qu'à m'embêter et qui menacent ma survie. Donc, et de la même manière, ce rat qui sera parti ici pour aller chercher de la nourriture, si sur son passage il découvre une nourriture qu'il n'avait pas vue, eh bien de façon opportuniste, il sera capable d'aller manger la nourriture en question plutôt que d'aller chercher une nourriture qui a peut-être disparu depuis hier. Et enfin, il sera capable d'autres performances, telles que par exemple, s'il a soif, il partira en ligne droite pour aller rejoindre la boisson ici. Mais si le couloir est bloqué à cet endroit, alors il pourra faire un détour et il partira comme ça. Il se servira de sa carte pour planifier un détour et aller rejoindre sa nourriture. Donc voilà le genre d'exploit qu'on prétend réaliser dans les 2 ou 3 ans qui viennent avec un robot réel. Vous voyez qu'on est encore loin d'espérer reproduire l'intelligence de l'homme. Alors, je vous ai parlé de l'apprentissage et je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait rendre un robot adaptatif avec d'autres processus adaptatifs inspirés de la biologie, notamment le développement et l'évolution. Et je vais essayer de vous faire comprendre comment ça se met en œuvre en pratique. En gros, nous avons deux bras, deux jambes, deux yeux, des cheveux sur la tête de telle et telle couleur. Pourquoi ? Eh bien parce que des bonnes informations sont portées dans nos chromosomes et sont codées dans des doubles hélices d'ADN. Eh bien, pour utiliser, coder dans le patrimoine génétique d'un robot des informations équivalentes, en fait, au lieu d'utiliser une double hélice, on va utiliser une arborescence. Ça, c'est une astuce d'informaticien. Et au nœud des arbres en question, on va mettre des instructions de développement qui vont être exécutées par des neurones. Donc, en gros, un neurone sera capable de se diviser. Il sera capable de pousser une connexion vers un autre neurone. Il sera capable d'attirer une connexion depuis un autre neurone. Il sera capable de se détruire, etc. etc. Et ces instructions de développement vont être exécutées par un neurone d'origine, un neurone souche, qui va être placé dans un substrat géométrique et qui sera susceptible d'interagir avec ce que j'ai appelé tout à l'heure des neurones d'entrée ou des neurones sensoriels, ou et avec des neurones de sortie ou des neurones effecteurs. Donc, en gros, nous avons un programme de développement, une cellule initiale dans son substrat, et cette cellule va exécuter l'instruction qui est en tête de ce programme. Et par exemple, ça va la conduire à se diviser. Maintenant, ces deux cellules vont utiliser chacune le même programme de développement et vont exécuter les instructions qui suivent. Donc, celle-ci va attirer une connexion depuis ce neurone, celle-là va se diviser, et puis petit à petit, toutes les instructions sont exécutées, et qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'on a un programme de développement qui s'exécute et qui va générer un réseau de neurones qui peut être très compliqué, et ce réseau de neurones, en tout cas, prend en entrée des informations sensorielles par ces neurones sensoriels et prend en sortie et donne en sortie des informations vers les actionneurs du robot. Du coup, vous voyez que on peut coder dans ce qu'on appelle le génotype des instructions de développement et on peut transformer ces instructions en un phénotype, c'est-à-dire en un réseau de neurones qui va contrôler soit un robot simulé, soit un robot réel. Ici, par exemple, on veut contrôler la marche d'un robot hexapode, d'un robot à 6 pattes. Et à partir de ce programme de développement, on va créer un réseau de neurones et on va faire fonctionner ce réseau de neurones, c'est-à-dire que le robot va plus ou moins marcher. S'il marche bien, on va être très content et on va dire « ce robot est très performant ». S'il marche mal, on va être très fâché et on va dire « ce robot marche mal ». Et du coup, on va mettre en œuvre ce que l'on appelle un algorithme évolutionniste qui va générer des générations successives de robots Vous voyez qu'on va créer une population de programmes de développement, on va créer les génotypes correspondants, c'est-à-dire une population de réseaux de neurones qui sont tous différents les uns des autres, qui vont produire des robots qui sont tous différents les uns des autres. Et on peut mettre en œuvre un processus de sélection artificielle qui va reproduire la sélection darwinienne. Donc en gros, dans notre population, on va prendre un papa qui a l'air bien performant, une maman qui a l'air bien performante, donc le papa est rouge, la maman est grise. On prend leur génome et on les croise, on leur permet d'échanger des éléments de leur patrimoine génétique. Ainsi, on voit que ici, cet individu a hérité d'une partie de l'arbre de développement de son père, et celui-là a hérité de la partie semblable de l'arbre de développement de sa mère. Et en plus, de la nouveauté va être introduite dans le système parce que des instructions de développement peuvent être modifiées par des mutations. Du coup, on voit qu'on va créer des réseaux de neurones qui vont avoir des caractéristiques du père, des caractéristiques de la mère et des mutations. Et on va créer comme ça des individus qui passent de la première génération à la deuxième génération. Si ces individus sont performants, alors on va leur permettre de se reproduire et ils vont participer à ce cycle immuable des générations. Si par contre ils ne sont pas performants, ils vont être éliminés. Bien, vous avez tout compris. On reproduit comme ça de façon artificielle le mécanisme de la sélection naturelle et de génération en génération, on va faire des robots qui vont exhiber des performances de plus en plus satisfaisantes et spectaculaires. Alors c'est ce que l'on a fait ici, où on a fait évoluer un réseau de neurones qui va contrôler la marche d'un robot à six pattes. Alors ici, on a un réseau de neurones de première génération, donc il y a très peu de neurones qui peuvent être connectés à des neurones moteurs qui correspondent ici à faire fonctionner la patte avant droite, ici la patte du milieu droite, ici la patte arrière droite. Là, la patte avant-gauche, etc. Et tous ces neurones, on peut suivre leur évolution au cours du temps et on peut simuler le fonctionnement d'un insecte à six pattes qui utiliserait ce réseau de neurones. Voilà, c'est fait ici. Et on voit qu'au cours du temps, cet animal est bien tristouné, il a un petit peu avancé, mais vraiment très mal. Par contre, plusieurs générations plus tard, on a créé un réseau de neurones très complexe, toujours connecté aux actuateurs du robot, et là on voit que le robot crapahute à toute allure. On peut, de même qu'on a fait ça en simulation, on peut transférer le réseau de neurones de première génération sur un robot réel, et vous voyez que le pauvre type a bien du mal à avancer. Ici, un système nerveux de dernière génération a été utilisé sur le robot et vous voyez que la marche est beaucoup plus efficace. On peut de la même manière faire coévoluer deux espèces. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer le patrimoine génétique d'une espèce proie, par exemple, et le patrimoine génétique d'une espèce prédateur. Et exactement de la façon dont je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On veut que la proie échappe le plus longtemps possible au prédateur, et on veut au contraire que le prédateur attrape le plus vite possible la proie. Alors ici, on a une simulation où on voit que le prédateur et la proie sont vraiment pas très futés, ils font absolument n'importe quoi. Là, par contre, après de nombreuses générations, ils ont un comportement presque optimal, c'est-à-dire que la proie cherche à échapper au prédateur en ligne droite et le prédateur cherche à poursuivre la proie en ligne droite. Ici, on a fait la même chose avec des robots réels. Donc la proie a une protubérance sur son sommet, mais elle ne voit rien. Par contre, le prédateur a un système visuel et peut détecter cette protubérance. Et on voit que le prédateur a évolué de façon à courir après la proie et que la proie a évolué de façon à échapper le plus possible au prédateur. Et il se passe des phénomènes très très intéressants que je n'ai pas le temps de vous détailler, où on a une sorte de course aux armements, c'est-à-dire que la proie invente quelque chose pour échapper au prédateur, puis le prédateur trouve une parade et se met à devenir beaucoup plus performant, du coup la proie doit inventer autre chose, etc. Enfin, c'est un mécanisme de course aux armements, comme je le disais, qui serait très intéressant à détailler, mais je n'ai pas le temps. Et ici, on a un exemple particulièrement spectaculaire où on a fait évoluer non seulement le contrôleur neuronal de systèmes artificiels, mais en plus leur morphologie. Comme je le disais, dans nos chaînes d'ADN, dans nos chromosomes, eh bien, il est dit qu'on a plutôt deux bras, plutôt deux jambes et pas six pattes. Bon. Eh bien, ça, c'est codé dans nos gènes. Et donc, la morphologie d'un robot peut être codée de même que le système nerveux qui va contrôler le comportement de ce robot. Donc ici, on a une animation qui présente des résultats de cette nature. Alors ici, on cherche à inventer la nage. Donc voilà une bestiole qui a deux nageoires. Ici, l'évolution a trouvé une forme bien plus compliquée. Ici, une forme différente. Et à chaque fois, l'évolution trouve le contrôleur neuronal qui va bien. Et donc, il ne suffit pas de trouver une bonne forme. Il faut trouver aussi le bon réseau de neurones qui va bien aller pour faire nager cette forme. Donc ici, on a des créatures diverses et variées du point de vue anatomique et du point de vue de leur contrôle. Maintenant, on cherche à faire évoluer la marche. Quand vous songez à l'incroyable diversité des systèmes vivants sur Terre, vous ne pouvez qu'être émerveillé de voir qu'on arrive à faire la même chose maintenant au plan artificiel. Donc on a comme ça toute une zoologie de bestioles avec des morphologies incroyables. Des comportements bizarroïdes, mais à chaque fois, on arrive à faire nager ou à faire marcher les entités en question. Maintenant, on va inventer le saut. Et maintenant, vous voyez qu'on peut utiliser des senseurs, c'est-à-dire que les systèmes de contrôle ne vont pas simplement faire marcher des actionneurs, mais ils peuvent aller détecter une source de lumière et la poursuivre. Bon, je pense que vous avez compris la logique. Je vais arrêter ça. Alors, on arrive à faire la même chose avec des robots réels, mais je n'ai pas trop le temps de vous montrer ça. Et donc, je préfère faire, à ce stade, une petite synthèse et dire que, par rapport à ce que vous venez de voir, qu'est-ce qu'on essaye de faire de plus maintenant ? Bien, on essaye de mettre en place des comportements plus élaborés que ceux que vous venez de voir. Par exemple, vous avez vu qu'on a fait évoluer des contrôleurs pour un insecte qui va utiliser ses six pattes pour avancer en ligne droite. Mais une fois qu'on a trouvé le contrôleur neuronal qui fait ça, on peut figer ce contrôleur neuronal et en faire évoluer un autre qui va pousser des connexions vers le premier et qui va permettre non seulement de crapahuter en ligne droite, mais en plus d'éviter des obstacles. Donc un deuxième comportement va s'ajouter sur le premier. Puis une fois qu'on a réussi ça, on fige les deux premiers réseaux de neurones, on en fait évoluer un troisième qui va pousser des connexions vers les précédents et qui va permettre au robot non seulement de marcher en ligne droite, non seulement d'éviter des obstacles, mais ensuite de poursuivre une lumière. Et donc vous voyez que l'idée, c'est la suivante, c'est comment à rajouter des petits comportements simples sur des petits comportements simples, et quand est-ce qu'on va un jour créer un robot qui va être capable de danser la Macarena, qui va être capable d'inventer le théorème de Thalès, et qui va se mettre à fondre en larmes devant la naissance de Vénus de Botticelli. De la même manière, on cherche à produire des comportements encore plus adaptatifs que ceux que vous avez vus là. En gros, quand on fait évoluer un animat sous certaines pressions de sélection, on va obtenir un individu qui fait très bien ce pourquoi on l'a sélectionné. Mais si les pressions de sélection changent, eh bien cet individu qui était très adapté au problème qu'on lui a posé n'est pas adaptable et ne sera pas forcément adapté au nouveau problème. Et donc, dans notre laboratoire, on essaye d'aborder ces questions et on met au point comme ça des robots qui sont capables de s'adapter à la perte d'une patte, à des usures diverses, au passage sur des sols glissants, etc. Une autre chose qui est très utilisée à l'heure actuelle, tant chez nous qu'ailleurs, c'est les interactions entre l'apprentissage, on a vu des robots qui apprenaient, le développement et l'évolution, on a vu des robots qui se développaient et qui évoluaient. Et enfin, ça ne se fait pas chez nous, mais ça se fait dans certains labos ailleurs dans le monde. Je fais allusion à la construction, à la mise au point de ce qu'on appelle des biobots. Donc les biobots, c'est des êtres hybrides qui sont à la fois intelligents, à la fois vivants et à la fois artificiels. Par exemple, on peut trouver une organisation où un système vivant et un système artificiel se contrôlent mutuellement. Par exemple, dans une expérience ici, on a pris le système nerveux d'une lamproie. Une lamproie, c'est une sorte techniquement, c'est un agnate, enfin, disons que c'est une sorte de poisson sous-évolué. On a pris son système nerveux et on l'a connecté à un robot. Donc, les senseurs du robot sont connectés à certains neurones du système nerveux de la lamproie et d'autres neurones du système nerveux de la lamproie sont connectés aux actuateurs du robot. Et comme ça, ce système est capable de faire des choses dans l'environnement. Et les gens qui s'amusent à faire ça disent qu'ils comprennent beaucoup mieux la logique et l'organisation et le fonctionnement du cerveau de la lamproie que s'ils avaient étudié directement la lamproie elle-même. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Personnellement, je suis qu'à moitié convaincu, mais bon. Là, on a affaire à des expériences où le vivant va contrôler l'ordinateur. Donc, en gros, je fais allusion à une expérience célèbre où les impulsions électriques saisies au niveau du crâne d'un singe ont été capturées par un système informatique et utilisé pour contrôler le mouvement du bras d'un robot. Et le singe a appris à mettre son cerveau dans un état mental et électrique tel que le robot va faire des choses qui récompensent le singe. Et évidemment, si ce singe est capable de bouger un bras à 2 mètres de lui, eh bien, les informations en question peuvent être envoyées à 950 km de là, pour actionner un bras d'un robot tout à fait ailleurs. Et l'expérience a été faite. Alors, c'est assez spectaculaire, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit là la porte ouverte vers des prothèses artificielles. Et l'idée qu'on va pouvoir un jour saisir l'état électrique du cerveau de l'homme pour aller actionner des prothèses artificielles. Et ça, ce n'est pas un jeu, il y a vraiment des enjeux médicaux et chirurgicaux fabuleux derrière ce genre de recherche. Et puis, on peut faire le contraire, c'est-à-dire que l'ordinateur ou la machine peut contrôler le vivant. Alors ça donne lieu à des expériences très tristes, que je réprouve tout à fait, où on va implanter des électrodes dans le cerveau d'un cafard, et à envoyer des signaux électriques aux bons endroits, eh bien, le cafard va tourner à droite ou va tourner à gauche au gré de la volonté de l'expérimentateur. Alors qu'on fasse ça à un cafard, je suppose que ça choque certaines personnes, mais bon, peut-être pas tout le monde n'est peut-être pas choqué. Le problème, c'est qu'on fait ça avec un rat aussi. Et des impulsions électriques sont envoyées dans le cerveau du rat, et il va se mettre à tourner à droite, à tourner à gauche dans son environnement. Et on peut lui donner des ordres très compliqués, du genre grimper à une échelle, se déplacer sur un plan horizontal, descendre un escalier, faire un tour sur une plateforme horizontale et descendre. Et tout ça par les impulsions électriques envoyées dans son cerveau. Alors, faire ça à un rat, ben, je pense que ça commence à choquer pas mal de gens dans l'auditoire. Le jour où on va faire ça à votre animal favori, à votre chien ou votre chat, je pense que vous n'allez pas du tout apprécier. Et le jour où quelqu'un se mettra en tête de faire ça sur vous, ça sera encore bien pire. Du coup, ça m'amène à poser les questions qui fâchent. Faut-il redouter l'autonomie des robots ? Doit-on robotiser le vivant ? Faut-il redouter l'autonomie des robots ? Ça veut dire, est-ce qu'il faut craindre que des robots deviennent un jour plus intelligents que nous ? Ma position, c'est que, au plan des principes, de tout ce que je comprends, de tout ce que je connais, rien ne s'oppose à ce qu'un robot soit un jour plus intelligent que l'homme. Mais ce que je sais, ce que je comprends, c'est qu'on en est vraiment, à l'heure actuelle, très très loin. Alors, est-ce qu'il faudra 50 ans pour faire un rat artificiel ? Est-ce qu'il faudra faire 200 ans pour faire un humain artificiel ? Ou est-ce qu'il faudra des milliers d'années ? J'en sais rien. Mais au plan des principes, je pense que c'est possible. Et pour achever de vous inquiéter ou de vous rassurer, je dirais que comme on me pose souvent cette question, je m'en tire souvent par un faux fuyant qui, sur le plan de l'humour, et je dis, mais enfin, de quoi auriez-vous peur ? Si l'homme, qui est pour le moment l'être le plus intelligent sur cette terre, a été capable de s'apercevoir que des espèces inférieures étaient en danger, a été capable de les protéger, de les maintenir dans des parcs, etc., pourquoi est-ce que les robots, qui seront un jour beaucoup plus intelligents que nous, ne seront pas capables de faire la même chose pour nous protéger ? En revanche, et là je ne m'amuse absolument plus, doit-on robotiser le vivant ? Eh bien je pense que non, non, non et non. Et il est urgent que des mécanismes de contrôle, des comités d'éthique se mettent en place et que le genre de dérive auquel on assiste s'arrête et le plus vite possible. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter notre site web. Je vais laisser cette diapo à l'écran. Et sinon, s'il y a un ouvrage parmi d'autres qui résume bien tout ce que je viens de vous raconter, eh bien, allez lire le livre merveilleusement illustré de Menzel et d'Aluisio qui s'appelle Robo Sapiens, qui a été traduit en français et publié aux éditions Autrement. Il se trouve qu'avec ma collègue Agnès Guillot, on en a rédigé la préface et que ce n'est pas son moindre intérêt. Je vous remercie de votre attention.
Je vais vous demander deux questions, s'il vous plaît. La première question, quand vous avez expliqué qu'est-ce que nous, les êtres humains, peuvent faire en espèce, nous, les êtres humains, peuvent faire en création de nouvelles espèces, au fond, des choses artificielles, intelligence artificielle, est-ce que ça donne crédence à l'idée que peut-être une autre espèce extraterrestre a fait la même chose avec nous, c'est-à-dire que nous faisons en création des ADN comme ça, ils ont fait la même chose en créant sur Terre les choses qui font une évolution qu'ils ont déjà su comment ça va marcher. Et la deuxième question, c'est que quand on voit dans les robots là, comme par exemple ils sautent ou ils suivent comme ça, vous avez montré que certains vont dans un certain sens, certains dans un autre sens. Bon, est-ce que ça peut expliquer aussi comment c'est arrivé que maintenant qu'il y a beaucoup d'espèces différentes sur Terre, comment chaque espèce a choisi son stratégie, c'est-à-dire personne n'a jamais montré, on parle toujours qu'il y a une stratégie, les humains ont fait ça, les rats ont fait ça, mais on n'a jamais dit pourquoi. Est-ce que ça peut montrer pourquoi une espèce a choisi une stratégie, c'est-à-dire que c'était tout à fait par hasard?
Oui, Il y a deux. Donc vous m'avez posé deux questions. La première, est-ce que nous-mêmes, avons pu être créés par des intelligences extraterrestres? Personnellement, je ne le pense pas trop, mais je ne suis pas spécialiste de ces questions. Pour le moment, je m'en tiens aux explications relativement traditionnelles de la biologie, même s'il y a des controverses. Mais l'évolution classique, l'apparition des premières molécules, etc., c'est une explication qui me convient bien et que je trouve plus économique que celle qui consisterait à faire appel à des intelligences extraterrestres qui nous auraient construits. Mais je ne suis pas sûr d'avoir raison. La deuxième question, c'est est-ce que l'évolution artificielle peut permettre de mieux comprendre l'évolution naturelle? Eh bien, là, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des expériences avec cette logique, alors que vous ne pouvez pas faire des expériences sur la façon dont un comportement s'est mis en place, parce que le comportement, ça disparaît avec l'individu. On n'a pas des fossiles de comportement. Et donc, tout ce que les spécialistes de l'évolution sont désolés de ne pas avoir à leur disposition pour comprendre ce qui s'est passé dans l'évolution naturelle, ce genre de simulation informatique permet de l'investiguer et donne des informations pour mieux comprendre. Alors, pour le moment, les spécialistes de l'évolution ne connaissent pas ce genre de choses et ils n'ont pas encore flashé dessus, si j'ose ainsi m'exprimer. Mais je ne doute pas que le jour où ils vont commencer à comprendre quelle est la puissance de cet outil, je ne doute pas un seul instant qu'ils ne vont pas être passionnés et qu'ils ne vont pas l'utiliser pour leur recherche propre.
Je suis professeur de classe préparatoire. À l'heure actuelle, il y a donc 30 000 topins qui planchent sur ce sujet, c'est-à-dire optimalisation des robots. Bon, ma question est la suivante. Ils ont à étudier les algorithmes, évidemment, génétiques. Ils ont les algorithmes évolutionnistes que vous venez de présenter. Ils ont aussi la génomique fonctionnelle. Apparemment, vous n'avez pas, vous, incorporé de programme de génomique fonctionnelle dans vos robots. C'est-à-dire que vous fonctionnez uniquement par réseau de neurones. Pourquoi? Et est-ce que les topins peuvent y accéder? Enfin bon.
Non, j'avais de 50 minutes pour vous faire cet exposé, donc j'ai choisi de le centrer sur les réseaux de neurones, parce que, puisque mon argumentation c'est de dire faisons des animates en s'inspirant de la biologie, l'expression réseau de neurones, même si ces neurones sont artificiels et sont incroyablement plus simples que les neurones naturels, c'était une expression parlante et j'ai capitalisé là-dessus pour mon exposé. Mais on peut mettre en place des mécanismes adaptatifs très différents que ceux qui utilisent des réseaux de neurones. Vous avez ici notre site web, vous pouvez aller le consulter, vous verrez qu'il y a bien d'autres choses que les réseaux de neurones, mais rentrer dans les détails correspondants serait peut-être un peu technique.
Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il, à votre connaissance, une différence essentielle entre le cerveau humain et le cerveau d'un rat qui fasse qu'on ne puisse pas faire des robots humains comme on l'a fait avec les rats? Ou n'y a-t-il pas, à votre connaissance, d'obstacles sérieux à ça?
Oui, je ne suis pas sûr d'avoir raison, là encore, mais pour le moment, j'imagine que le cerveau d'un rat est simplement plus simple que le cerveau d'un humain. Le jour où, à avoir compris le cerveau du rat et en avoir reproduit les principales caractéristiques, on commencera à s'attaquer au niveau de complexité du cerveau humain, et qu'on s'apercevra qu'il y a des choses qui sont fondamentalement différentes, je saurais le reconnaître, mais pour le moment, je n'ai pas tellement de raisons de le penser. Donc je pense que ce qu'il y a dans le cerveau d'un homme, c'est simplement des choses plus complexes que ce qu'il y a dans le cerveau d'un rat. Mais il y a eu plusieurs millions d'années d'évolution qui ont séparé le rat de l'homme et d'autres structures se sont mises en place et celles-là, elles sont originales. Mais comprendre ces structures, c'est du même ordre peut-être du même ordre de complexité que de comprendre celles qui sont dans le cerveau du rat. Voilà tout ce que je peux dire à l'heure actuelle.
Du cerveau du rat, est-ce qu'elle n'est pas aussi à la base dans le cerveau de l'humain et pourrait donc être utilisée de la même manière pour des buts divers, notamment faire des comportements kamikazes ou toutes sortes de possibilités?
Si,
chez les animaux comme chez les hommes.
Si, mais je vous ai montré tout à l'heure une diapo qui représentait l'hippocampe dans le cerveau d'un rat. Il se trouve que l'hippocampe est une structure qui est différente et plus complexe dans le cerveau de l'homme, mais elle sert à la même... Et si tant est qu'on comprenne bien à quoi l'hippocampe du rat et l'hippocampe de l'homme servent, mais on a pour le moment de bonnes raisons de penser que c'est dans ces structures-là qu'on code la mémoire spatiale. Donc il n'y a pas de différence de nature entre certaines zones du cerveau du rat, tout simplement parce que le cerveau humain s'est développé au cours de l'évolution à partir de choses qui étaient plus simples.
Oui, j'aurais plusieurs questions. La première, c'est que souvent les biologistes, les neuroscientifiques plutôt, sont un peu réticents au sujet du parallélisme qu'on peut faire entre ordinateur et être vivant. Et en particulier, Jean-Jeux dit que ce qui distingue essentiellement les deux, c'est le fait qu'il y a d'une part redondance et d'autre part il y a compensation. Lorsque, si vous enlevez un élément d'un ordinateur, il se met à ne plus fonctionner, enfin c'est ce qu'il dit, tandis que si vous enlevez telle partie d'organe à un animal, il se met à compenser. Est-ce que des études de compensation ont été faites sur les robots? Deuxième question, le système de récompense et le système de punition qui existe dans les cerveaux des animaux, est-ce qu'ils ont leurs équivalents dans les robots? Et troisièmement et dernièrement, il y a une différence énorme entre génétique et épigénétique. Il semblerait que la supériorité de l'homme, par exemple, par rapport aux animaux, supériorité entre guillemets, soit due à la supériorité de l'épigénétique beaucoup plus que du génétique. Est-ce que vous pouvez faire des commentaires sur ces trois points?
Voilà. Malheureusement, j'avais pas de quoi prendre des notes. J'espère que je vais pas oublier vos questions. La première, la compensation. Eh bien, oui, dans notre laboratoire, lorsqu'on a fait évoluer un réseau de neurones qui est un véritable plat de spaghettis, qu'il est très difficile de comprendre, de même qu'il est très difficile de comprendre comment fonctionnent les milliards de neurones qui constituent le plat de spaghettis qu'on a entre nos deux oreilles. Néanmoins, on y arrive. Et on peut, sur ces cerveaux artificiels, on peut couper des connexions, on peut tuer des neurones. On peut également faire des manips, comme je le disais tout à l'heure, où on peut voir comment un robot à six pattes va se réorganiser pour crapahuter avec cinq pattes s'il en a perdu une, pour crapahuter avec quatre pattes s'il en a perdu deux, etc. On peut tenir compte de phénomènes d'usure, etc. Enfin, oui, bref, ça, on l'étudie, et d'ores et déjà dans les laboratoires, en particulier chez nous. La deuxième question, c'était les circuits de la récompense et la punition. Ben oui, quand on étudie les ganglions de la base chez le rat, en particulier, on peut chercher à reproduire le fonctionnement et le rôle de la dopamine et faire intervenir des mécanismes d'apprentissage et des mécanismes de récompense, de punition, etc. Et la troisième question, donc la réponse est oui. Et la troisième question, génétique et épigénétique, ben oui, vous l'avez vu ici, on peut coder dans un génome un processus de développement qui va interagir avec l'environnement, ce qui fait que le même programme de développement dans cet environnement-là, il va donner lieu à tel phénotype, alors que ce même programme de développement interagissant avec un autre environnement, eh bien, va donner lieu à un autre phénotype. Donc tout ça, c'est des choses que l'on voit d'ores et déjà dans nos systèmes et qu'on étudie.
Les arborisations que vous avez indiquées comme parallélisme à l'ADN, est-ce que, plus exactement, est-ce qu'on pourrait parler de ces arborisations en parallèle avec la sélection de synapses qui s'appare chez le vivant?
Enfin, nous avons choisi de coder nos génomes avec ces logiques arborescentes pour des raisons qui doivent apparaître évidentes à certains informaticiens dans la salle. Je ne vais pas détailler ça, mais on aurait pu prendre une autre logique. Ça n'a rien à voir avec votre question qui était... Pardon.
Qui était la sélection des synapses.
Ah oui. D'accord, donc il y a des hypothèses qui sont dues à Changeux en France ou à Edelman aux États-Unis. qui disent qu'au cours de la sélection, enfin qui disent qu'au cours du développement, un réseau de neurones très très compliqué va se mettre en place et éventuellement, à cause de ces interactions avec l'environnement, des synapses vont régresser, des neurones vont disparaître. Et donc, il y a une sélection qui va se produire. Ce genre de choses, nous ne l'avons pas encore mis en place, mais on a tous les moyens pour le faire. Et je ne dis pas qu'un... Et puis, ça se fait dans d'autres laboratoires que le nôtre. Donc, c'est dans l'air du temps. Et on n'a pas encore montré en quoi cette logique sélectionniste serait plus efficace que celle plus simple que nous utilisons. Mais le jour où on s'apercevra qu'elle est plus efficace, eh bien on saura l'exploiter.
Au début de l'exposé, vous avez présenté les deux objectifs de l'intelligence artificielle. La première étant de reproduire le vivant et la deuxième étant de reproduire en fait, les effets en faisant croire que c'était suite à une réflexion. J'aimerais savoir, vous, dans votre laboratoire, à quel niveau vous pensez vous situer ? Est-ce que vous estimez ne faire que la reproduction de ce qui pourrait être fait par du vivant, ou est-ce que vous pensez que les réseaux neuronaux que vous utilisez sont à l'image de ce qui se passe vraiment dans le vivant ?
Oui. Merci de cette question, parce que vous touchez du doigt l'espèce de schizophrénie qui est la nôtre en permanence. D'un côté... Pour tenir un discours cohérent, je vous dis on essaye de s'inspirer le plus possible de la biologie pour faire des systèmes artificiels aussi adaptatifs, aussi autonomes que des systèmes naturels. Mais de l'autre, je sais très bien que dans certains cas, l'inspiration biologique est très lointaine. Alors, quand on copie des détails incroyablement précis connus par les biologistes sur le fonctionnement de l'hippocampe ou sur le fonctionnement des noyaux de la base dans le cerveau d'un rat, là on s'inspire de la biologie vraiment de très très près. En revanche, quand on copie les mécanismes de la sélection naturelle par des algorithmes évolutionnistes artificiels, eh bien l'inspiration est lointaine. Donc je ne vais pas vous dire qu'on colle toujours à la biologie de très très près. Et ce n'est pas parce qu'on utilise des réseaux de neurones artificiels que pour autant on est dupe de l'incroyable distance qu'il y a entre nos neurones artificiels et les véritables neurones naturels. Mais bon, certaines de nos recherches puisent largement et profondément dans le savoir biologique lorsqu'il est disponible. Et puis dans d'autres cas, il ne l'est pas. Et on se contente de reproduire des capacités dont on a besoin, mais sans être sûr et sans être dupe de la correspondance étroite que ça peut avoir avec les mécanismes naturels.
Merci, Monsieur Meyer.